littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. Mon zombie et moi. Pierre Kassounoguès.
Bonjour, vous m'entendez? Ouais, manifestement. Voilà. Eh bien, bonjour, je suis Pierre Kassounoguès. C'est moi qui fais l'interro surprise. On m'a dit qu'il fallait commencer à l'heure pile. Donc, c'est la première fois de ma vie. 14h tapante, on commence. C'est aussi la première fois de ma vie. Je viens d'arrêter de fumer. C'est ma première intervention en public sans nicotine. Donc, vous inquiétez pas si je m'énerve beaucoup. Ça fait partie du jeu, de l'irritabilité. Bref, non, c'est plaisanterie. Je suis philosophe et ce dont je vais parler, c'est de la portée, disons, ou ce dont on va parler plutôt, puisque le but, c'est vraiment qu'on imagine ensemble des expériences de pensée. C'est de la portée de la science-fiction pour la philosophie. Et je dois dire, ce qui m'intéresse dans la fiction ou la science-fiction, c'est vraiment ce qu'elle peut avoir de philosophique, hein, de spéculatif, d'apporter quelque chose sur une certaine façon de comprendre le corps, le monde extérieur, qui n'est pas la science. Je veux dire, une façon de comprendre le corps, par exemple, qui n'est pas la science, qui n'est pas la biologie, mais qui est la philosophie. Et ce à quoi on va essayer de réfléchir, hein, de définir, c'est à la fois justement quelle peut être la portée de la fiction dans cette compréhension du corps, par exemple, ou de la perception, et du coup, qu'est-ce que la philosophie, cette chose, ce discours qui à la fois veut être rationnel, et qui pourtant n'est pas la science. Donc, après, on va parler d'expérience, de pensée, de fiction plus concrète, mais je vais commencer par vous dire, en fait, ma thèse, quoi. La thèse, c'est que la philosophie s'occupe en réalité d'un certain domaine de possible qui est ouvert par la fiction. C'est-à-dire donc que la philosophie doit considérer comme possible n'importe quel personnage qui apparaît dans une fiction qui fonctionne. Ou encore que si la philosophie peut interroger le corps, par exemple, et je reviendrai beaucoup sur cet exemple du corps et peut-être après... je discuterai justement des limites de cet exemple. Mais si la philosophie peut interroger le corps, c'est en fait en envisageant tous les corps possibles, toutes les variations qu'on pourrait faire de notre corps, et ces variations, elles sont données par la fiction, et c'est dans ces variations qu'on va comprendre ce qu'il y a de plus essentiel dans notre corps ou dans notre façon de percevoir. Okay. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de dialoguer. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir, à dire si vous n'êtes pas d'accord, etc. Hein. Ou si vous ne comprenez pas, hein, c'est parfaitement légitime. Donc, vraiment, n'hésitez pas. En plus, il n'y a pas besoin de micro, vraiment, n'hésitez pas. Donc, voilà, l'idée, hein, que, en fait, pour interroger, j'ai pris l'exemple du corps, mais ça pourrait être autre chose, voilà, la perception, mais aussi l'espace, le monde extérieur, etc. En fait, il faut envisager toutes les différentes variations qu'on pourrait faire de notre corps, de l'espace, du monde extérieur, et qu'en philosophie, ces variations, elles sont données par la fiction, par des fictions qui fonctionnent. Alors, voilà, ça implique une des choses que ça implique, c'est qu'on ne peut pas dire n'importe quoi en fiction. Donc je vais prendre un premier exemple. Chacun connaît le personnage de l'homme invisible. Vous voyez, y en a plusieurs, le personnage de l'homme invisible. Vous avez, attendez, ça me gêne, depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai des Ricolas qui ont à peu près la forme d'un paquet de cigarettes et qui tiennent dans la poche la même fonction. Bref, donc Griffin, le personnage de H.G. Wells, c'est l'homme invisible le plus connu pour vous, pour nous, c'est le roman de H.G. Wells, je ne sais plus, 1894, il me semble. Il invente un procédé un peu bizarre, il boit sa potion, il se fait passer dans des rayons un peu mystérieux et il devient invisible. Ce n'est pas une invention de Wells, puisqu'il y a un homme invisible antérieur, bien antérieur à Wells. Il y en a un dans Platon, dans la philosophe donc, grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans La République, un personnage s'appelle Gigès, et Gigès, c'est un berger. Il découvre par hasard une bague, et quand on tourne le chaton de la bague, le porteur de la bague devient invisible. Et Gigès utilise la bague pour tuer le roi, épouser la reine, devenir roi à la place du roi. Et c'est toujours la même chose que veut Griffin, le personnage de H.G. Wells. Griffin, ce qu'il veut et ce qu'il pense que que l'invisibilité devrait lui donner, c'est le pouvoir. Le pouvoir, eh bien, si on est invisible, il va voler. Bon. Sauf que Griffin n'a d'abord pas... Il s'est d'abord rendu invisible avant d'avoir trouvé la façon de se rendre visible à nouveau. Donc, il ne peut pas se rendre à nouveau. Et puis... Dès le début, quand il est invisible, il se rend compte qu'être invisible à la fin du 19e siècle dans Londres, c'est très compliqué et qu'en fait, ça cause plus de soucis que de bonheur. Il a du mal quand il marche, par exemple, il marche dans la rue. À Londres, il y a une foule sur la rue, il marche dans la rue, il est forcément bousculé, piétiné, puisque par définition, personne ne le voit. Et bref, le personnage de l'homme invisible... Un nombre incalculable de films, chacun le connaît. Donc l'homme invisible, il pourrait être là, il nous voit, mais nous, on ne le voit pas. Est-ce qu'on peut imaginer, dans le même sens, un homme intangible ? Ou une femme, ou un personnage intangible ? C'est-à-dire un personnage qui pourrait toucher sans lui-même pouvoir être touché. Vous voyez, l'homme invisible, il nous voit, on ne le voit pas. Est-ce que maintenant, on pourrait imaginer la même chose dans le registre du toucher ? L'homme intangible, ça pourrait être moi, vous me voyez, puisque je suis intangible, pas invisible, et je pourrais vous serrer la main, et je sentirais votre main dans la mienne, mais vous ne sentiriez pas ma main. Alors, il y aurait des... Oui. Intuitivement, on se dit ça pose un problème. On se dit ça va pas. Oui, allez-y. Donc l'idée que ça serait une propriété relationnelle. Oui, allez-y.
Le même problème se pose sur l'invisibilité dans des structures récentes comme la bibliothèque de Marmoucha,
Exactement. C'est-à-dire, vous avez tout à fait raison. Donc, on se dit, il y a un problème pour le toucher. Ça ne va pas être possible. Mais comment ça se fait qu'on imagine que c'est possible pour la vision? Parce que, rigoureusement, le personnage de l'homme invisible, en fait, il est transparent. C'est-à-dire, il est transparent comme une vitre. Les rayons passent à travers lui, et c'est ce que Wells explique, hein, qu'il a bu son machin, un procédé, hop, il a le même indice de, j'ai oublié, réfraction que l'air, hop, les rayons lumineux passent à travers. Mais s'il est parfaitement transparent, si les rayons lumineux passent parfaitement à travers lui, ben, il devrait être aveugle. Il devrait être aveugle, puisque les rayons lumineux ne devraient pas s'inscrire sur sa rétine. Donc ça serait comme un homme... intangible, comme un fantôme, en fait. C'est-à-dire, si on met du côté du toucher, les fantômes, tels qu'on les conçoit traditionnellement, ils ne peuvent pas être touchés. Si j'essaye d'attraper un fantôme, je passe à travers. Mais, en gros, ils ne touchent pas non plus. Et donc, il y a des films, par exemple, je ne sais pas si vous avez en tête, le film Ghost, le personnage, le héros, doit, pour sauver sa petite amie, doit appuyer sur le bouton d'alarme dans un train, et il essaye de se concentrer énormément pour appuyer sur le bouton qu'il ne peut pas toucher, mais évidemment, lorsqu'il se concentre et qu'il réussit à toucher, ben en fait, son doigt qui touche le bouton serait tangible. Et en réalité, pour l'homme invisible, il devrait se passer la même chose. Il devrait avoir perdu le sens de la vue en même temps qu'il s'est rendu invisible. Et pourtant, on n'a aucune difficulté à imaginer un homme invisible et on n'arrive pas à imaginer un homme intangible. Et donc pourquoi ? Que d'une certaine façon, tout ce que vous avez proposé, c'est juste. C'est vrai que c'est, dans les deux cas, le toucher, c'est effectivement une propriété relationnelle. Dans les deux cas, ça met en jeu les frontières du corps. Mais pourtant, dans l'un, on arrive à dépasser ses limitations et dans l'autre, on n'y arrive pas, oui ? Oui, mais encore une fois, j'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi y aurait une incohérence à toucher tout en étant intangible ? Ah ben, c'est pas évident qu'on croit plus en la vue qu'en le... Non, c'est une très bonne... c'est un problème très intéressant. Hein. Dans lequel de nos sens on croit le plus ? Et par exemple, c'est une question... auquel de nos sens on doit faire le plus confiance ? Mais justement, il me semble que le toucher, c'est le sens auquel on fait le plus confiance. Et quand on dit de quelque chose... que ça n'a pas de substance, que c'est de l'air, c'est intangible. Il me semble c'est une façon d'en diminuer le statut. Que si je vois quelqu'un et que je passe mon bras à travers, je dis c'est une illusion. En revanche, si je touche quelque chose et que je ne le vois pas, je me dis il y a quelque chose qui est transparent, il y a un problème. Il me semble qu'au contraire, le toucher, c'est un sens qui est auquel on fait beaucoup confiance. Mais par exemple, donc dans la vie, il n'y a pas d'homme invisible. Ok. Même au point de vue de la science, l'homme invisible, c'est impossible, puisqu'on a dit que du point de vue de la science, il serait transparent. Mais on dit c'est pareil du côté du toucher. Alors dans la vue. On peut dire qu'il y a des cas de quasi-invisibilité. Par exemple, je peux regarder par le trou d'une serrure. Vous voyez ? La scène, une scène en plus philosophique, Sartre, et dans L'être et le néant, il fait tout un truc sur un type, donc le narrateur, qui regarde ce qui se passe dans une chambre d'hôtel par le trou d'une serrure. Donc, je regarde par le trou d'une serrure, je vois ce qui se passe, et je suis quasi invisible. Pas tout à fait, hein, puisque en principe, on peut me voir quand même, mais presque invisible. Mais en même temps, on peut me voir. Alors, est-ce, du point de vue du toucher, est-ce qu'il y a de tels cas de quasi-invisibilité, de quasi-intangibilité? Ben oui, on peut dire par exemple une fourmi qui monte sur mon bras. C'est comme quelqu'un qui regarde par le trou de la serrure. À savoir, la fourmi qui monte sur mon bras, elle touche mon bras, elle sent mon bras, elle sent sa texture, mais moi je la sens pas. Et pourquoi je la sens pas? Je la sens pas parce que elle est trop légère, que ma sensibilité est trop grossière. Mais c'est exactement ce qui se passe pour le trou de la serrure. S'il y a quelqu'un qui nous observe, je sais pas, par la fente du machin, de la porte, en fait, si mon regard était très perçant, je pourrais le voir. Donc, mais la différence, c'est que... Ouais, vous vouliez dire quelque chose? Non, pardon, je crois que vous avez levé la main. Oui, allez-y. Oui. Oui. Eh bien, il me semble que c'est pas vrai, que même, par exemple, dans le cas où j'ai la main anesthésiée, si je touche la... Quand on est anesthésié, la résistance et la texture. Eh bien, la texture... Enfin, dans le cas... Après, peut-être qu'il y a d'autres handicaps, des trucs cérébraux que je connais pas, mais... Quand on est anesthésié, par exemple, on a le doigt ou la main anesthésiée, on ne sent plus les températures, donc on peut mettre le doigt sur un truc très chaud ou très froid, on ne sent rien. Mais par contre, la texture, on sent quelque chose de la texture. Et j'y reviendrai dans un instant, c'est une expérience très bizarre. Si vous prenez un stylo... J'y reviendrai dans un instant. Oui. Oui. Je suis d'accord et pas d'accord. Effectivement, j'y reviendrai tout à l'heure, que l'homme invisible, en fait, l'homme invisible, je disais au début, hein, il a été inventé par Platon. Que l'homme invisible, c'est le premier, c'est Gigès, donc 5e siècle avant notre ère, y a tout dedans. Hein, il tourne sa bague, il devient invisible, il veut le pouvoir, il a le pouvoir, et en même temps, ça finit mal. On peut dire... Et d'ailleurs, même H.G. Wells, son personnage, Griffin, Gigès, peut-être au moins un G, peut-être qui peut être inspiré. Et pourtant, entre Platon et Wells, il n'y a pas d'homme invisible. Il n'y a pas d'homme invisible, même, ça va faire votre question, même les représentants, en fait, Gigès, c'est un personnage un peu comme ça, mythique, et il y a deux versions de l'histoire de Gigès. Il y en a une autre qui est due à Hérodote. Et Dans la deuxième version, en fait, Gigès n'est pas invisible. C'est au départ, n'est pas un berger. C'est au départ un ami du roi de Lydie. Bon, je ne sais pas où c'est, autour de la Méditerranée. Donc, c'est un ami du roi. Et le roi lui dit... En fait, le roi vante devant, le roi vante devant lui la beauté de sa femme. Et à la fin, il vante tellement la beauté de sa femme qu'il veut lui montrer sa femme nue. Et donc, il introduit, il cache Gigès dans sa chambre, dans la chambre nuptiale, quoi, pendant que la femme du roi se déshabille. Et Gigès regarde la femme du roi. Et dans l'histoire, la femme du roi croise, en fait, elle voit Gigès. Elle croise son regard. Et elle comprend que Gigès a été introduit dans la chambre par le roi, et elle décide de se venger du roi, et en fait, elle devient la maîtresse de Gigès, et à eux deux, ils tuent le roi, et l'histoire finit de la même façon, Gigès devient roi à la place du roi. Et ça a donné, le roi s'appelle, c'est pas Cancale, c'est Cocale. Et c'est le cocalisme, c'est une espèce de perversion, enfin de perversion au sens de Freud, quand la sexualité n'a pas seulement pour but la reproduction, donc qui consiste à vouloir en fait montrer son conjoint à d'autres et jouir du désir des autres. Voilà, bon, bref. Et donc, c'est une histoire différente. Et dans tous les. Tout au long, entre, en gros, tout au long de l'époque classique, peut-être pas énormément, mais beaucoup de tableaux de Gigès, et c'est jamais l'homme invisible, Gigès. Gigès, c'est le héros d'Hérodote, et alors j'aurais pu la montrer, mais il y a en particulier un tableau de Van der Nier, un peintre hollandais, et vous voyez le roi, et vous voyez la reine qui est de dos, qui se déshabille, et vous voyez Gigès caché et le regard qui s'échange entre la reine et Gigès. Et en fait, pourquoi c'est intéressant pour l'époque classique, pour la peinture du, entre 15e et 18e siècle de montrer ça? Parce que Gigès, en fait, il est dans la position du spectateur. Nous aussi, on regarde la reine. Nous aussi, on veut voir comme elle est belle. Et est-ce qu'on va croiser son regard? Donc, représenter Gigès, c'est une façon... De représenter le statut du spectateur. Et de toute façon, comment on aurait représenté l'homme invisible sur un tableau? Comment vous voulez faire pour représenter l'homme invisible sur un tableau? Il n'y a rien à montrer. Et d'une certaine façon, peut-être que si l'homme invisible est devenu aussi important au XXe siècle, c'est à cause du cinéma. C'est-à-dire ce que vous disiez dans le film de la première... Le roman de Wells date de 1800, j'ai oublié, c'est 1904 ou 1894, mais enfin par là. Et il me semble que c'est 1933. Hein, il y a le film de James Wells où c'est l'image ultra célèbre du l'homme invisible qui enlève ses bandelettes et on voit plus rien. Et Wells, il voit, il montre il découvre un procédé pour montrer l'homme invisible. Mais sur un tableau, vous pouvez... Enfin, comment montrer l'homme invisible? Peut-être que l'homme invisible, il appartient au cinéma. Et qu'effectivement, joue dans cette question le médium. Le médium hein, dans lequel on va travailler. Peut-être que, en fait, si l'homme invisible est si important pour nous, c'est à cause du cinéma. Et peut-être que si on avait posé la question au XVIIIe siècle, peut-être qu'en fait, l'homme invisible, on aurait dit, mais enfin, ça ne marche pas. Donc peut-être que cette différence entre la vue et le toucher, elle est liée au médium. Mais ça n'empêche pas que, même si on lui trouve une cause, ça n'empêche pas qu'il y a cette différence apparente entre la vue et le toucher, que dans la vue, on a des cas d'invisibilité de quasi-invisibilité ou d'invisibilité limite, mais on arrive à les dépasser pour imaginer une invisibilité absolue, et dans le cas du toucher, on n'y arrive pas. On n'arrive pas, on se dit, si la fourmi, bah, elle rétrécit encore un peu, elle disparaît complètement. Alors que l'homme invisible, eh ben, je l'imagine, on imagine un quelqu'un qui est là, et puis on l'efface petit à petit, petit à petit, petit à petit, ben, il reste là alors qu'on l'a complètement effacé. Hein. Pourquoi ? Autre, oui, allez-y. Oui, alors j'y viendrai à la fin. Effectivement, dans quelle mesure, en fait, les nouvelles technologies, elles changent cette situation et elles permettent d'imaginer un homme intangible. On pourrait dire, j'y viendrai à la fin. J'y reviendrai à la fin. Donc, pareil, je continue sur ces invisibilités limites. Si vous imaginez une vitre, c'est transparent. C'est transparent comme l'homme invisible. Hein. J'imagine l'homme invisible... il est là et puis je le fais de plus en plus clair, je l'efface hein, petit à petit. Et donc on se dit, bon ben voilà, il est comme une vitre parfaitement propre. Sauf que ce n'est pas vrai. Une vitre, soit elle est plate, imaginez une vitre parfaitement propre. Est-ce qu'une vitre parfaitement propre, elle est invisible ? Ben non, parce que soit elle est plate et elle a des arêtes, et donc les arêtes on les voit, soit elle n'est pas plate, mais dans ce cas-là, elle déforme ce qu'il y a derrière elle. Donc une vitre n'est jamais invisible comme l'homme invisible. Alors comment se fait-il qu'on arrive à imaginer, à passer au-delà de ces difficultés dans la réalité pour imaginer un homme invisible et qu'on n'y arrive pas dans le cas du toucher ? Oui ? Alors, effectivement, j'insistais sur le cinéma. En même temps, L'homme invisible, c'est d'abord un roman. Alors, j'ai vu, il y avait vous et vous, je réponds, et puis je défends mon beefsteak, et puis je vous... L'homme invisible, c'est quand même d'abord un roman, hein, un roman avec un succès colossal. Et c'est le point qui va m'intéresser... C'est personne n'a réussi à écrire une histoire d'homme intangible. C'est-à-dire, on se dit, bon, ok, ça marche, si c'est le cinéma, pourquoi il n'y a pas de roman d'homme intangible ? Et en particulier, dans la période entre le roman de Wells et le film de James Wells, il y a Maurice Renard, un espèce de préfigurateur de la science-fiction à la française, ce qu'il appelle le merveilleux scientifique, qui essaye d'écrire une nouvelle, en fait, qui ferait le pendant au roman de Wells. Ça s'appelle « L'homme au corps subtil ». Et donc, c'est un physicien, pareil, désargenté, qui va, comme Wells, il avale, comme Griffin, le personnage de Wells, il avale une espèce de breuvage un peu bizarre, procédé physico-chimique mystérieux, il se rend intangible. Mais Maurice Renard est obligé, donc le physicien s'appelle Bovancourt, Maurice Renard est obligé en fait d'imaginer que Bovancourt perd le sens du toucher en même temps qu'il se fait intangible, comme si l'homme invisible se faisait aveugle. Donc il n'y arrive pas à écrire un exact pendant, et pourtant il explique, il y a une multitude d'indices intertextuels, comme on dit, il dit clairement qu'il essaye de faire un pendant, et ça ne marche pas. Et donc ça ne marche pas, effectivement, le cinéma a certainement un rôle, mais on ne peut pas... réduire cette différence entre la vue et le toucher à la question du cinéma, qu'il se passe aussi quelque chose dans l'écriture. Alors, on fait le tour et puis vous reprenez la parole. Oui, allez-y. Ah, pardon, oui, alors c'est pour ça que je vous regardais, vous, et vous vous parliez, je me disais, avec les masques, je ne comprenais rien, oui. Alors, je... Et oui, mais pourquoi ? Pourquoi personne serait capable d'y croire ? Alors, il y avait... oui, à vous. Et alors, c'est une question aussi. Donc, j'ai vu vous après, vous et plusieurs. Voilà, OK. Mais alors, c'est une question, les références culturelles, c'est une question. Donc, voilà. Par exemple, donc, dans les références culturelles, une référence culturelle à... un autre exemple... Une référence culturelle à l'intangibilité, mais qui est un peu erronée, c'est Jésus-Christ qui dit à Marie-Madeleine, la phrase se dit en latin d'habitude, « Ne l'ai mis, mais tangere, ne me touche pas ». C'est Jésus-Christ est ressuscité, il revient voir les apôtres et sur le chemin, il croise Marie-Madeleine. En gros, Marie-Madeleine veut lui serrer la main, il lui dit « Ne me touche pas ». Et donc, est-ce qu'il est intangible ? Il n'est pas intangible, il est intangible en un sens, puisqu'on ne le touche pas, alors qu'il peut toucher, mais il est intangible en un sens différent de l'homme invisible, parce que on ne peut pas le toucher au sens où on n'a pas le droit de le toucher. Ce n'est pas qu'on passerait à travers, c'est qu'on n'a pas le droit de le toucher. Donc c'est comme si l'homme invisible, il était invisible parce que quand il frappe à la porte, il faut regarder ailleurs. Et donc on ne peut pas le voir parce qu'on regarde ailleurs. Et donc on peut dire, est-ce qu'on n'a pas en même temps une sorte de référence aussi culturelle à l'intangibilité ? On pourrait donner un autre jeu de référence... culturel. C'est le roman de Ralph Ellison, c'est dans les années 50, qui s'appelle Invisible Man. Et au lieu de The, le roman de Wells, c'est The Invisible Man, et Ralph Ellison fait Invisible Man. Et donc, pour Ralph Ellison, l'homme invisible, c'est le noir dans l'Amérique des années 50. C'est-à-dire celui qu'on ne veut pas voir, celui qu'on ne voit pas, le portier, dans un hôtel où le clochard, on ne le regarde pas. On ne le regarde pas, donc il est invisible. Et donc, ici, l'homme invisible, ça permet, ça joue comme référence culturelle pour donner une qualification à un statut social. Le fait d'être invisible, ça ne veut pas dire que ce noir dans l'Amérique des années 50, il est invisible comme l'homme invisible, mais il est invisible au sens qu'on ne va pas le voir. Hein, comme le portier dans les films, je pensais au film de Murnau, hein, le dernier homme, le portier, personne ne le voit. Il ouvre la porte, les gens passent, personne ne le voit. Donc là encore, hein, la façon dont l'homme invisible peut jouer comme référence culturelle. Et à la limite, on pourrait même se demander, est-ce que si on peut imaginer cette invisibilité métaphysique, celle de l'homme invisible qui voit sans être vu, est-ce que c'est pas en fait parce qu'on a toujours eu conscience que, par exemple, le mendiant était un homme invisible. C'est ce que le mendiant, par exemple, il y a des histoires dans les romans policiers, il y a souvent quelque chose comme ça. Sherlock Holmes, par exemple, plusieurs fois, il se déguise en mendiant, parce que le mendiant, il se pose dans un coin, le mendiant dans les histoires, il se pose dans un coin et personne ne le voit. Lui, il voit tout, personne ne le voit. Personne ne sait qui il est, personne ne regarde, les détails de son visage lui donnent une individualité. Il est invisible. On pourrait se demander, est-ce que finalement, cette invisibilité sociale, elle est peut-être première sur l'invisibilité métaphysique. Peut-être que Wells est passé, peut-être que Wells a inventé son homme invisible, pas en pensant à Platon, mais en marchant dans la rue, et en regardant un mendiant et en se rendant compte que le mendiant voyait, alors que voyait des gens qui ne le voient pas. Donc voilà, sur cette référence culturelle, mais qui ne résout pas la difficulté. Oui. Et bien justement, oui, mais... Et non, justement, c'est l'homme invisible, il est absolument invisible. Un caméléon, il n'est pas invisible comme l'homme invisible de Wells. Voilà, mais encore une fois, dans le registre de la vision, on peut tirer ça vers un absolu, alors qu'on ne peut pas le faire dans le registre du toucher. Alors, oui. Mais dans l'imagination, il y a les fantômes. Sauf que les fantômes, ils sont intangibles, intouchants, on peut dire. On ne les touche pas, ils ne touchent pas. Mais on les imagine vivants sans pouvoir être touchés, ni être touchants. Le meilleur exemple, hein, pour moi, c'est pas les fantômes, d'ailleurs, c'est dans le roman de... Comment ça, le roman le nom va me revenir, c'est un anglais qui a dans un passage des personnages qui sont des nuages. Bon. Dans l'ordre que vous voulez, je sais pas, allez-y.
Comme justement,
Alors, qu'il y ait une variation comme ça, je pense que c'est le cas, effectivement. Une variation dans le temps, peut-être une variation culturelle aussi. Et en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit la fiction qui ait elle-même un effet sur cette variation, et en particulier que Wells, encore une fois, avec son homme invisible, il donne une espèce de défi aux écrivains d'inventer un homme intangible. Et ils essayent et ils n'y arrivent pas. Alors, oui, allez-y.
La question, c'est bien pourquoi on n'a pas pu créer de romans, ou en tout cas d'œuvres sur un homme intangible.
Oui.
Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient à penser qu'au sens, qui est la distance entre percevoir et être perçu. Et en fait, il y a une grande distance entre entendre et être entendu. Il y a une grande distance entre entendre et être entendu. Par contre, entre être touché et toucher, il n'y a quasiment aucune distance. C'est quasiment la même chose.
Alors, là encore, merci pour la question. J'ai un contre-exemple. Donc, effectivement, ce n'est pas que je les invente comme ça, les contre-exemples. C'est des choses auxquelles j'ai beaucoup réfléchi. Toucher à distance. Toucher à distance, mais parfaitement imaginable. Et d'ailleurs, on l'imagine depuis Aristote. Par exemple, dans un texte de Descartes, le bâton de l'aveugle. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le bâton de l'aveugle, Descartes, donc l'aveugle, dans l'imaginaire au moins, il se promène avec son bâton et il touche les obstacles à distance. Si vous faites l'expérience, même avec un stylo, vous prenez un stylo, vous le passez sur une surface, au bout de 10 secondes, vous touchez, vous sentez la texture au bout du stylo. Mais vraiment, vous prenez un stylo, vous passez avec le bout qui n'écrit pas, sur le siège devant vous. Eh bien, vous sentez la texture, vous sentez le feutre, ou si c'est un plastique lisse, vous le sentez au bout du stylo. Quand on a la main anesthésiée, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, on sent, on a la main qui ne bouge pas, mais si on passe la main sur quelque chose, on sent. Donc, et Descartes dit, voilà... L'aveugle, en fait, il va sentir les textures, les obstacles, et ces textures, il les localise vraiment au bout du bâton. C'est comme, dit Descartes, s'il avait un bras qui était seulement plus long, il touche à distance. Il y a des textes de Diderot aussi dans le même genre. Donc, toucher à distance, ce n'est pas un problème. On a imaginé toucher à distance, mais ça ne résout pas cette question de la réflexivité. Pourquoi ?
Parce que le fait de sentir une texture à travers un objet, c'est parce que notre cerveau a avoir du vide et qu'il interprète une sensation.
Oui, mais c'est comme ça qu'on le perçoit. Que...
Mais la réalité, c'est que les capteurs sur le bout de nos doigts ne nous ont pas donné l'information.
Et oui, mais c'est quand même. Et puis, imaginez. Imaginez, est-ce que je pourrais pas facilement raconter une histoire où j'aurais une main, un bras extensible ? Je suis l'homme élastique. Pof ! Je lance ma main contre le mur, je touche. Et cette main, en fait, j'ai dit que voilà, mon bras, on ne le voit pas. Ma main, hop, part toute seule, je la lance là-bas, je touche. Ça ne serait pas un problème. Et voilà. Et, c'est-à-dire que le fait que le toucher... dans la réalité, se fasse par contact et pas à distance. Justement, par exemple, ça, c'est une différence entre la vue et le toucher dans la vie. C'est que la vue, elle se fait à distance, je vois au loin, alors que le toucher, il faut qu'il y ait contact. Mais ça, je peux justement, par la fiction, le défaire. Je peux imaginer toucher à distance. Je peux imaginer que j'ai une espèce de main transparente qui va se plaquer contre le mur là-bas. Je peux imaginer toucher à distance alors que je ne peux pas imaginer toucher sans moi-même être touché. Vous voyez, alors, je prends en fait... Après, je voudrais quand même conclure pour vous dire ce que j'en tire de ça. Donc, je prends les derniers qui avaient levé la main. Il y avait vous depuis très longtemps et vous juste devant.
Votre exemple du mendiant ne marche pas forcément parce qu'il y a une hypothèse aussi. Donc, si le
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Effectivement, le pickpocket, oui, c'est vrai. Le pickpocket devrait être effectivement un homme intangible pareil. Oui, c'est vrai. Alors, il y a effectivement la question morale qui joue et la question de genre. Hein, pourquoi il n'y a que des hommes invisibles ? C'est pourquoi ? Pourquoi, par exemple, si vous prenez voyez, Superman, Wonder Woman, il y a des fantômes hommes, des fantômes femmes, pourquoi l'homme invisible ? Pourquoi est-ce que c'est l'homme qui est invisible ? C'est une question. Alors, Ah, ok, d'accord. Okay. Bah, donc, ça résout la question du genre. Ok, parfait. Alors, dernière question, puis après, je voudrais conclure. Ouais. Bon, laissons la question ouverte. Je vais juste... non, mais c'est intéressant, mais il me semble que ça a à faire avec les nouvelles technologies aussi dont je vais parler dans un instant. Je veux juste vous, du coup, dire ce que j'en tire de cette difficulté, de cette possibilité d'imaginer l'homme invisible et cette difficulté à imaginer l'homme intangible. Donc d'abord, en fait, tout le but... Voilà. Pour moi, en fait, ce qui montre... qu'on ne peut pas imaginer l'homme intangible, ce n'est pas qu'on n'y arrive pas quand on joue comme ça entre nous, c'est qu'il n'y a pas d'histoire d'homme intangible. On a beau parcourir la science-fiction, il n'y en a pas au moins pas qui ait l'écho de l'homme invisible. Cette différence, pour moi, elle montre qu'il y a une vraie différence entre la vue et le toucher. Que, par exemple, le fait que la vue soit un sens à distance, le toucher un sens de contact... Ce n'est pas une vraie différence. Je peux imaginer toucher à n'importe quelle distance. Mais la vraie différence entre la vue et le toucher, c'est que pour voir, je peux être invisible, alors que pour toucher, je dois être tangible. Pour moi, l'idée, c'est de faire une espèce de défendre un usage de la fiction en philosophie qui, en fait, rende compte de cette différence et qui permette de marquer par la fiction une différence entre la vue et le toucher. Hein. Donc, je disais au début que l'idée, c'est que la philosophie doit pouvoir accepter comme exemple légitime des êtres comme l'homme invisible, c'est-à-dire des êtres qui sont même impossibles pour la science, impossibles pour la vie, et qui existent seulement dans la fiction. Mais que justement, la fiction, c'est le domaine auquel la philosophie est attachée. Et c'est dans ce domaine du possible qu'elle va pouvoir, eh bien, établir les propriétés les plus essentielles de nos corps. Alors, évidemment, après... Alors, j'ai pris des notes sur mon téléphone. Voilà. Hein, donc, après, on peut... Du coup, le critère, en première approximation, hein, le critère pour le possible de la philosophie, c'est que je puisse raconter... Que je puisse raconter la situation en question. C'est-à-dire, est-ce que je peux raconter une histoire dans laquelle je suis un homme invisible ? Oui, Wells l'a fait. Est-ce que je peux raconter une histoire dans laquelle je suis un homme intangible ? Non. Mais est-ce que, par exemple, c'est le point de départ du livre et c'est ce qui était dans le petit paragraphe d'introduction, dans quelle mesure je peux imaginer être... je peux imaginer mon corps, dans la vie, il est d'un seul morceau. Est-ce que je peux imaginer avoir un corps en deux morceaux, avec, par exemple, ma tête posée sur la table et le reste de mon corps qui se promène ? À quoi est-ce qu'on pourrait avoir des corps en deux morceaux ? Est-ce que le fait d'avoir un corps en un seul morceau, c'est une possibilité essentielle ou pas ? Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir une peau, c'est essentiel ou pas ? C'est-à-dire, une peau, c'est quoi ? C'est une surface qui va distinguer un intérieur et un extérieur. L'intérieur du corps, dans notre expérience, c'est très différent de l'extérieur. Par exemple, dans l'extérieur du corps, il y a des couleurs. Les fauteuils sont rouges. Mais je ne vois pas de couleurs dans l'intérieur de mon corps. Évidemment, si je me coupe la main, je vois du rouge. Je vois du rouge, mais ce rouge, il est toujours à la surface de mon corps. Dans l'intérieur de mon corps, il n'y a pas de couleurs. Par contre, dans l'intérieur de mon corps, il y a des sensations. J'ai mal aux dents. C'est une sensation qui est par là. Est-ce que je pourrais avoir mal aux dents dans le fauteuil, là-bas ? À quoi ça ressemblerait d'avoir mal aux dents dans le fauteuil ? Est-ce qu'on peut raconter une histoire dans laquelle, vous voyez, je sens un truc bizarre, mais non, j'ai pas mal aux dents, j'ai mal aux dents dans le fauteuil. Est-ce qu'on pourrait raconter à quoi ça ressemblerait ? Est-ce que c'est une propriété essentielle de nos corps, le fait qu'on ait une peau qui sépare deux régions complètement différentes de l'univers dans notre expérience. Une région dans laquelle il y a des couleurs, une région dans laquelle il y a des sensations. Évidemment, pour la science, bien sûr qu'on a des sensations dans l'intérieur du corps, qu'on n'en a pas dehors, c'est les nerfs. Mais ce qui m'intéresse, c'est comme l'homme invisible, est-ce qu'on peut établir des propriétés essentielles qu'on ne peut même pas imaginer autrement et qui font en fait les propriétés les plus profondes du corps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà. Donc, mais évidemment, maintenant, si on dit... je vais continuer trois minutes et puis je vous redonne la parole. Maintenant, évidemment, on peut... J'ai dit une histoire en première personne. Parce que pour le philosophe ou l'écrivain, c'est le plus facile. On prend son stylo, on écrit. Finalement, un film. Est-ce qu'un film, il ne peut pas aussi nous donner... une telle expérience, c'est rendre une situation possible. Est-ce que une installation artistique, est-ce qu'elle ne peut pas aussi nous donner une situation possible ? Mais en même temps, on ne peut pas admettre... ce qui était important dans la première histoire, c'était le fait de décrire en première personne. Parce que si on ne décrit pas en première personne, vous avez des exemples d'hommes intangibles. Par exemple, Passe-Muraille, le personnage de Marcel Aimé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une nouvelle de Marcel Aimé. Il passe à travers les murs et il prend le contenu des coffres-forts. Donc il touche et pourtant il passe à travers les murs, il est intangible. Mais justement, dans l'histoire, on comprend bien que ce n'est pas ça qui est important. C'est une espèce de conte moral. C'est pas... Donc, il faut quand même mettre des critères. Un bon critère, c'est la première personne. Mais est-ce que cette première personne, elle ne m'interdit pas de considérer des films ou des expériences artistiques qui pourtant nous donnent une situation possible ? Autre difficulté, dans quelle mesure, si je dis c'est la première personne, le critère, dans quelle mesure est-ce que je peux imaginer un monde sans moi ? Vous voyez, en gros, on a quand même grosso modo envie de dire que un monde sans moi, c'est un monde que la philosophie doit considérer comme possible. Parce que dans la vie, je crois que le monde m'a précédé, par exemple, et qu'il me survivra. Et donc, on a envie que la philosophie, que le philosophe, il soit d'accord avec ça. Mais si le critère du possible en philosophie, c'est que qu'on puisse raconter un récit en première personne de la situation, ça veut dire que le monde est coextensif à mon existence. Alors, autre difficulté. Un personnage dans le film Memento et dans le livre de Oliver Sacks, L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. C'est des gens qui n'ont pas de mémoire immédiate. C'est-à-dire, c'est un personnage, en particulier dans le livre d'Oliver Sacks, un ancien marin. Il a une cinquantaine d'années et il a eu un accident quand il avait 18 ans, un truc qui lui est tombé sur la tête, et il oublie au bout de 3 minutes. Et donc, il a 50 ans, mais comme il oublie toujours au bout de 3 minutes, il croit toujours qu'il a 18 ans, parce qu'il ne se souvient que ce qui précède son accident. Donc, on le met devant un miroir, il est stupéfait, il dit « Qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai une maladie terrible qui m'a transformé d'un seul coup ?» Mais donc son médecin se dit « J'ai fait une erreur, le patient est atterré », mais il a oublié au bout de 3 minutes. Donc il est dans un espèce de présent immédiat, et c'est le personnage de Memento, le film des frères Nolan, c'est pareil. Mais donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. On peut prendre un coup sur la tête et perdre sa mémoire immédiate. Mais si on n'a pas de mémoire immédiate, on ne peut pas raconter son histoire. Donc ça veut dire que c'est une situation qui est impossible pour la philosophie, si on prend le critère de la première personne. Donc tout ça pour dire que, quelle portée a la fiction ? Comment donner une portée ? Donc ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est pourquoi on veut donner une portée à la fiction en philosophie ? Et comment essayer de faire ? Et en même temps, quel problème ça pose ? Et donc dans mon livre « Mon zombie et moi », ce qui m'intéresse, c'est à partir de fictions en première personne, les miennes et celles des autres, d'imaginer en fait tous les corps possibles, comment on peut faire varier nos corps, et puis, dans d'autres livres après, de jouer sur les limites de ces fictions, c'est-à-dire comment essayer justement d'imaginer des situations qui en fait soient pas possibles d'après ce critère de la première personne. Un peu comme dans le film Memento ou comme dans le personnage d'Oliver Sacks, si je suis dans un présent immédiat, je ne peux pas le raconter en première personne. Comment essayer de jouer avec ces situations ? Dans quelle mesure ces situations limitent, elles sont possibles pour la philosophie ? Voilà. Je pense qu'il va bien 2 minutes. Vous voulez conclure ? Oui, vous aviez levé le doigt ? La main ? Oui. Ouais, mais alors, on pourrait imaginer ressentir le mal dedans de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on pourrait imaginer vraiment un personnage, quand quelqu'un a mal aux dents, il sent le mal dedans dans la bouche de l'autre. Mais ce n'est pas l'empathie. Si je peux avoir beaucoup d'empathie pour les gens autour de moi, je ne sens pas leur mal dedans comme ils le sentent. Alors, il y avait. Vous n'avez jamais parlé, ouais.
À propos de ça,
ce que
je voyais, c'était les personnes, par exemple, qui sont amputées, qui ont un bras ou autre, peuvent ressentir un mal dedans, mais ils ne voient pas mal à la main.
Voilà. Oui, moi je crois assez que justement sur, et d'ailleurs il y a en fait aussi des exemples dans la littérature, mais cette possibilité qu'en fait cette séparation entre ces deux univers est justement contingente, comme le fait que le toucher se fasse, soit un sens de contact, et qu'on pourrait très bien ressentir de véritables sensations, pas seulement par empathie, mais de véritables sensations à l'extérieur de nos corps. justement dans le fauteuil, dans un autre être vivant, dans un arbre par exemple, qu'on pourrait, qu'en fait ça ne demande pas beaucoup d'efforts d'imagination que de jouer sur cette différence. Et ce que je voulais dire à la dernière chose, c'est que une possibilité, c'est aussi donc que ces différences, elles dépendent des technologies. En fait, ce que nous pouvons imaginer dépend des technologies, comme vous l'indiquez. Est-ce que, par exemple, les nouvelles technologies ne rendent pas possible d'imaginer un homme intangible ? Et pour le dire de façon métaphorique, mais au fond, il y a quand même quelque chose, le drone. Le drone, ça permet de toucher sans être soi-même touché. Certes, vous voulez dire toucher sa cible, c'est pas tout à fait toucher. Mais enfin, est-ce qu'avec les technologies, en fait, les technologies de l'information, est-ce que justement ça permet pas, en fait, d'imaginer un homme intangible ? Et dans ce cas-là, ça serait en fait une recomposition de notre imaginaire. Et on pourrait dire, pour aller avec, que peut-être en fait que l'homme intangible, il a fasciné l'imaginaire du XXe siècle, mais aujourd'hui, personne ne voudrait se faire... l'homme invisible a fasciné l'imaginaire du XXe siècle, mais aujourd'hui, personne ne voudrait se faire invisible pour avoir le pouvoir. Enfin, je veux dire, on se ferait attraper tout de suite. On se ferait un hacker. C'est le hacker qui a le pouvoir. Et le hacker, c'est quoi ? C'est celui qui ne laisse pas de traces. C'est-à-dire, il est intangible. Et donc, peut-être qu'il y a en fait une recomposition de notre imaginaire qui transforme les propriétés que nous pouvons attribuer à nos sens. Je crois qu'il faut qu'on arrête. OK, merci beaucoup.
Futur, littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie. We can face any future. Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.